au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pops ont commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée sur FPP comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Donc L'Envolée, qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'Envolée, c'est une émission de radio depuis 2001 sur cette même antenne, rediffusée un petit peu partout en France grâce à des radios locales. Une émission qui donne la parole aux prisonniers, aux prisonnières à l'intérieur, qui nous écrivent des lettres qu'on lit à l'antenne et qui construisent un dialogue. En fait, entre une équipe extérieure à la radio et des prisonniers, des prisonnières à l'intérieur pour construire un point de vue anticarcéral, c'est-à-dire une réflexion sur la prison, sur la justice et sur la société et qui construisent cette prison et qui vivent de cette prison et de cette justice. C'est aussi donc un journal qui sort une fois par trimestre. Puis voilà, c'est ça, L'Envolée.
Ouais, donc ce soir, cette émission, elle vous est préparée et présentée par Gaëlle, Pierrot et Elsa qui vous saluent. Est-ce que tu peux nous rappeler les contacts de L'Envolée ?
L'Envolée, vous pouvez écrire vos courriers à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019, Paris. Vous pouvez aussi laisser des messages téléphoniques, comme c'était le cas la semaine dernière, depuis la prison de Fleury, au 07 53 10 31 95. Un grand bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent à l'intérieur, à Fleury notamment en ce moment, et en CRA, comme c'était le cas aussi la semaine dernière. Donc 07 53 10 31 95. Vous pouvez appeler et laisser des messages ou envoyer des textos. Vous pouvez aussi contacter par mail à contact@l'envolée.net, sur Twitter, sur FB, sur Instagram.
Alors, au programme de l'émission ce soir, on va vous passer la retransmission d'une émission qui s'appelle Tapage, qui est une émission qui passe sur Canal Sud à Toulouse, sur la radio Canal Sud à Toulouse, qui est une émission sur la justice, qui se base notamment sur des chroniques de comparution immédiate de la Sellette, dont on vous a beaucoup parlé. On vous en a beaucoup retransmis dans L'Envolée. Celle qu'on va diffuser ce soir, elle s'appelle « Emprisonnée pour soigner les troubles psychiques en audience ». Voilà. Et avant ça, on va vous présenter un livre qui vient de sortir aux éditions du Bout de la Ville.
C'est un livre de Pierre Kropotkin qui s'appelle « Mon évasion ». Alors Pierre Kropotkin, vite fait, petite présentation, c'est un mathématicien et géographe du 19e siècle. Hein. Il est né en 1842, il est mort en 1921. Et c'est un des théoriciens essentiels de ce qu'on appelle le communisme anarchiste. Il a été incarcéré à plusieurs reprises pendant sa vie de révolutionnaire et d'agitateur. Et il a écrit un long livre qui s'appelle « Mémoire d'un révolutionnaire », dans lequel il consacre de très nombreuses pages, en fait, à son enfermement à la forteresse Saint-Pierre-Saint-Paul de Saint-Pétersbourg. Donc, il y était en 1874, et il s'en est évadé le 30 juin 1876, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Il raconte donc, dans le livre, assez longuement, en fait, ce qui se passe à l'intérieur et la préparation méticuleuse de cette évasion. Et ça, c'est deux chapitres de ces longues mémoires d'un révolutionnaire ont été reprises par les éditions du Bout de la Ville pour en faire juste un petit livre qui reprend juste le récit de cette évasion qui est absolument rocambolesque, qui est très, à la fois très drôle, qui se lit comme un récit d'aventure vraiment du 19e siècle, c'est vraiment Alexandre Dumas, quoi. Et il raconte, rien ne se passe comme il le prévoyait, puis finalement ça marche quand même, donc c'est un très très beau récit. Et puis c'est complété avec un texte de Kropotkin qui a fondé, en fait, quelque part, et qui a établi les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'abolitionnisme carcéral. C'est-à-dire, un refus à la fois théorisé, raisonné et viscéral de l'enfermement et de la prison pour tout le monde, en le liant à une société faite de domination, et en considérant que la prison, effectivement, n'est qu'un outil au service de la domination d'un côté, bon, voilà, ça c'est classique, mais de l'autre côté, en disant aussi pourquoi, en tant qu'institution, la prison fabrique des individus, les désocialise, détruit leur humanité sciemment, en fait, comment la prison est une déshumanisation. Donc ça, il le théorise déjà à l'époque. Et il raconte aussi, enfin, comment la prison transforme n'importe quel individu qui pourrait être sympathique à la base, s'il est gardien, s'il est surveillant, s'il est maton, eh bien, il va finir par être juste un garde-chiourme, un porte-clés, quelqu'un qui va forcément user de son pouvoir et transformer son travail, forcément, en petite humiliation quotidienne, etc., qu'on le veuille ou non. Ce qui lui fera écrire, je cite un tout petit bout, « Si on me demandait que pourrait-on faire pour améliorer le régime pénitentiaire ?» Je répondrai rien. On ne peut pas améliorer une prison. Sauf quelques petites améliorations sans importance, il n'y a absolument rien à faire qu'à la démolir. Donc ça, c'était un extrait de ce petit d'une conférence hein, qu'il a tenue quelques années plus tard après son évasion, après être repassé en prison cette fois-ci en France, à la centrale de Clairvaux. Et c'est ce passage, en fait, en prison en France, qui lui fera faire donc des conférences, et où il racontera que tout régime pénitentiaire, c'est pas juste celui de Saint-Pétersbourg en 1874, c'est pas juste celui de la centrale de Clairvaux en 1880, c'est toutes les prisons qu'il faut abattre, et c'est pour ça qu'il écrit lui-même, dans cette évasion qu'il fait là, et qui est reprise dans le livre, « Si la sentinelle tire, eh bien nous n'y pouvons rien, cela échappe à nos prévisions, puis devant la certitude de mourir en prison, la chose vaut la peine qu'on la risque. » Voilà, c'est comme ça que le bouquin est résumé en quatrième de couve. Ce bouquin, il est préfacé par David Doyon, qui est éditeur aux éditions Nada, qui a réédité l'intégralité de l'œuvre de Kropotkin. Si ça vous intéresse, allez-y. Il raconte comment cette histoire s'inscrit dans sa vie. Et puis, il est postfacé donc par le collectif L'Envolé, qui a écrit un texte sur l'évasion aujourd'hui en France et sa criminalisation, en revenant et en utilisant des éléments qui ont été publiés dans beaucoup de journaux de l'Envolé, et aussi des choses qui ont été lues à l'antenne, beaucoup, des citations de procès, notamment de procès aux assises dans les années 2010, et on pense en particulier au procès de l'évasion de la centrale de Moulins, dont s'étaient évadés Christophe Kider et Omar Top en 2009, et qui avait donné lieu à un procès qui avait été longuement suivi et longuement commenté à cette même antenne, et qui est toujours dispo sur le site de l'Envolé, hein, l'envolé.net, si vous voulez écouter des chroniques de ce procès qui avait lieu tous les jours et qui faisait plonger dans la machine judiciaire quand elle s'applique à une évasion. Pourquoi la machine tombe aussi violemment sur les prisonniers quand des prisonniers revendiquent ce droit à l'évasion, d'une certaine manière.
Ce livre, si les prisonniers et prisonnières veulent le lire, comment ils font ?
Eh ben, il s'adresse à l'envolé en disant contact@l'envolé.net et en disant bonjour, ou sur Twitter, ou sur FB, ou sur Instagram, ou par texto, comme on l'a dit avant, en disant envoyez-moi ce petit bouquin. Évidemment, c'est gratuit pour tous les gens qui en font la demande à l'intérieur et tous les proches qui, à l'extérieur, voudraient aussi lire ce livre ou le recevoir.
Donc, on va vous lire la postface de ce livre, Mon évasion de Pierre Kropotkin, qui vient de sortir. La postface écrite par l'envolé. Au sujet de l'évasion et de sa criminalisation. When you hear what I've got to say, I'm sure you won't be able to turn your head. Talk about nobody, nobody, nobody wants to be without. Makes no difference who you are or what color you happen to be, as long as you're alive and breathing. This has got to be
You're gonna have to say my, oh my, oh my, oh my. And all of the water that's in the sea. Oh, how it flows so very free. Makes no difference who you are or what color you happen to be. As long as you're alive and breathing, this has got to be one of your needs. I'm talking about freedom, y'all. I'm talking about freedom. I'm talking about freedom. I'm talking about freedom. Oh, what a wonderful world this would be if everybody could feel free. Freedom for you and me and every living thing that breathes. Oh, your mama needs freedom, your daddy, your little sister needs freedom. To do as I choose to do. Come on, y'all, give me some freedom. I want some freedom. Come on, come on, come on, give me some freedom, y'all. Give me some freedom. Freedom, 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 freedom. Your mouth.
Une injection d'air pur sur l'évasion et sa criminalisation par l'envolée. La plus grosse crainte des directeurs de prison de France, des syndicats de surveillants et des juges aussi, bien sûr, c'est que prisonniers et prisonnières s'organisent pour contester et agir ensemble contre le sort qui leur est fait. Parmi ces manières de contestation, il en est une qui réveille la nuit celles et ceux qui font le vilain métier d'enfermer d'autres humains. L'évasion. Ultime échec pour des hommes et des femmes dont la tâche est de bien verrouiller les portes. Appelé à témoigner devant la cour d'assises de Troyes, après une tentative d'évasion, l'ancien directeur de la sinistre maison centrale de Clairvaux, René Danet, avait fort bien illustré le point de vue du législateur. Mieux vaut 10 suicides qu'une évasion. En 2013, Pueyo, un autre directeur, a expliqué à la barre que la vie d'un otage pèse moins que le risque d'une évasion réussie. Empêcher un détenu de s'évader est le corollaire essentiel de la mission de garde confiée au service public pénitentiaire, résume le ministère dans une note. Pour mener à bien cette mission, les surveillants ont le droit et le devoir de tirer sur le candidat à la belle, et donc potentiellement de le tuer, tant qu'il se trouve dans l'enceinte pénitentiaire. L'agent doit faire usage de son arme, non seulement pour interrompre une tentative d'évasion, mais aussi pour se protéger ou sauvegarder la sécurité d'autrui, si l'évasion est conduite avec violence ou sous la menace d'une arme à feu, par exemple. Mais en fait, pas besoin de menace pour justifier les tirs. L'article D-283-6 prévoit qu'il doit être fait usage des armes lorsque des détenus, invités à s'arrêter par des appels répétés de « halte », faits à haute voix, cherchent à échapper à la garde et aux instigations des agents et qu'ils ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes. C'est l'obsession de l'évasion qui a produit des prisons hyper sécurisées aux dispositifs d'enfermement toujours plus déshumanisants. Maison centrale sécuritaire, quartier de haute sécurité des années 1960, rebaptisé quartier d'isolement en 1981, quartier maison centrale dans les années 2010, quartier de prévention de la radicalisation après 2015. Derrière chaque acronyme, derrière chaque nouvelle campagne de construction de prison, une seule et même priorité, rendre les murs infranchissables. Pour ça, il faut toujours plus d'isolement et tenter d'anéantir tout rêve de liberté au plus profond des prisonniers. Pourtant, le législateur, qui prétend dès l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacrer la liberté comme un droit fondamental, s'est longtemps abstenu de poursuivre les enfermés qui tenaient de la recouvrer. Jusqu'aux années 2000, l'évasion en tant que telle n'était pas une infraction pour le Code pénal. Seuls les moyens employés, violence, vol, dégradation, était passible de poursuite. Par son article 194, la loi du 9 mars 2004 a mis un terme à cette relative tolérance.
constitue une évasion punissable le fait par un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celle-ci aurait été commise de concert avec le détenu par un tiers, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Si une arme a été utilisée, la peine encourue passe à 10 ans.
Mais les peines de prison distribuées lors des procès pour évasion vont bien souvent au-delà de ces préconisations. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de venger l'honneur bafoué d'une administration et de ses agents, mais aussi de faire peur. Avocat de Christophe Kider pour son évasion de la prison de Moulins en 2009, Bernard Ripper a bien expliqué cette double intention dans sa plaidoirie devant la cour d'assises de Lyon en 2013. Début de la citation. « Tout se résume à une porte trouée, deux détruites. Tout est déjà réparé et on demande 22 ans pour cela. Il reste une évasion réussie de la prison la plus sécurisée d'Europe. C'est pour le symbole qu'on veut le punir. Vous voulez ôter tout espoir de vie. Vous voulez le voir mourir en prison. Vous voulez le tuer à petit feu. Si vous lui en voulez autant, ce n'est pas pour l'évasion, sans blesser, sans violence, mais pour le symbole qu'il est, celui de la lutte contre la prison. » Fin de la citation. Il faut dissuader celles et ceux qui pourraient rêver trop fort de s'évader à leur tour. En effet, comme l'a expliqué Christophe Kider, ouvrez les guillemets, c'est génial, tout le monde revit. Même les canailles de chez Canailles qui seraient capables de dénoncer quelqu'un en train de préparer une évasion. C'est une explosion de joie. Ça tape dans les portes, les mecs crient les noms des mecs qui sont partis. C'est une espèce d'injection d'air pur, comme si quelqu'un était passé au-dessus de la prison et avait jeté des milliards de pétales de rose. C'est magique, pendant quelques minutes. Mais cette magie, c'est précieux, surtout quand ça se passe à Moulins ou à Fresnes. Ça montre que si c'est possible dans des endroits hyper sécurisés comme ça, c'est possible partout. Fermez les guillemets. Les peines pour évasion ne peuvent pas faire l'objet de confusion de peines. Elles s'ajoutent forcément aux autres condamnations. Pour les évasions les plus spectaculaires, celles qui ont lieu dans les établissements ultra-sécuritaires, ces années de prison supplémentaires viennent s'additionner à des peines déjà infinies, déjà jugées infaisables par celles et ceux qui ont tenté de se faire la belle justement pour cette raison. Logique absurde d'un temps carcéral sans limite. Quand Redouane Faïd s'est évadé de la prison de Réau en 2018, sa fin de peine était fixée à 2046. Et il était à l'isolement depuis 5 ans, en punition d'une précédente évasion. Durant son procès à la cour d'assises de Paris, la directrice de Réau a détaillé à la barre le régime qui lui était réservé. Détention ultra-surveillée, encadrement par 3 surveillants pour tous les mouvements, ronde toutes les 2 heures, menottes, entraves et bandeaux sur les yeux lors des extractions, rapport de comportement quotidien. Redouane Faïd a expliqué « Même vous, après une semaine fatigante, vous avez besoin de vous évader, d'aller boire un coup, fumer une clope, sortir en discothèque. En prison, l'évasion, c'est autre chose. L'évasion, ça permet de tenir, de ne pas mourir. Tous les détenus de France cherchent à s'évader, monsieur l'avocat général. »
C'est la terrible perspective de le voir isolé sans fin qui a conduit Rachid, son frère, à venir le chercher. « C'est de la faute de la pénitentiaire, je ne peux pas le laisser dans un sarcophage vivant. » La fin de peine de Redouane Faïd est aujourd'hui fixée à 2060. En 1981, Serge Coutel a inauguré une jolie série d'évasions par hélicoptère en venant chercher ses amis Gérard Dupré et Daniel Beaumont à la prison de Fleury-Mérogis. C'était la première de 17 évasions aériennes en France. Régulièrement suivie par des mesures de plus en plus drastiques de l'administration, multiplication des filins au-dessus des cours de promenade qui bougent toujours plus l'horizon des prisonniers, puissance de feu sans cesse accrue des surveillants, généralisation de l'isolement. Citation. Si la sentinelle tire, eh bien nous n'y pouvons rien. Devant la certitude de mourir en prison, la chose vaut la peine qu'on la risque. Les mots de Kropotkin sonnent plus justes que jamais. Pour recouvrer sa liberté ou libérer un proche de sa forteresse, il faut être prêt à mourir. Rien d'étonnant à ce que les évasions, minutieusement préparées avec les complicités à l'extérieur, soient rarissimes. Le 14 mai 2024, le fourgon transportant un prisonnier dans le cadre d'une extraction judiciaire a été intercepté à un péage
et deux fonctionnaires de l'escorte ont été tués. Cette évasion, exceptionnelle par sa méthode et sa brutalité, a fait la une de tous les médias. En réaction, les surveillants ont bloqué la totalité des prisons de France pendant 5 jours. Un mouvement œil pour œil, dent pour dent. Tous et toutes les prisonniers de France devaient payer. Et puis, c'était surtout l'occasion rêvée pour les syndicats de surveillants de réclamer, comme à leur habitude, des armes plus lourdes, de nouveaux véhicules, des chiens renifleurs, des avantages pour la retraite, mais aussi la réduction du nombre des extractions judiciaires, qu'ils voudraient voir remplacées par des jugements en visioconférence ou par le déplacement des juges en prison. Pareil pour les soins, avec le recours à la télémédecine. La seule revendication entraînant un surcroît de travail pour eux, c'est le retour aux fouilles à nu systématiques. Malgré leur suppression officielle en 2009, obtenue par les prisonniers au prix de longs combats, ces traitements dégradants restent très fréquents, car les matons affectionnent particulièrement cette prérogative qui permet à la fois humiliation des enfermés et contrôle des trafics. Les surveillants ne sont de fait pas des travailleurs comme les autres, parce que tout ce qu'ils gagnent dans leur bataille syndicale, c'est toujours sur le dos des prisonniers et des prisonnières.
Quand des ouvriers et ouvrières se mettent en grève, ils et elles bloquent leur outil de travail, la plupart du temps des machines. Les surveillants, eux, bloquent la vie d'êtres humains. Comme l'écrit Marina, une prisonnière correspondante de L'Envolée. Avec les blocages des prisons, les matones ont fait une déclaration de guerre aux prisonnières. Elles se sont attaquées à toutes les choses qui nous touchent, de près dans notre quotidien. Elles nous ont laissés sans parloir, punissant au passage nos proches qui se sont déplacés pour rester à la porte ou qui ont vu le temps de parloir réduit considérablement. En empêchant l'entrée des intervenants, elles nous ont laissés sans activité, sans formation ni travail. Si on peut appeler travail, l'esclavage légal qui s'applique en prison. En empêchant l'entrée aux docteurs, psy, infirmiers, elles nous ont laissés sans soins ni médicaments. En bloquant l'entrée des fournisseurs, elles nous ont laissés sans pain, sans produits frais. En retardant les mouvements, elles ont raccourci les horaires de promenade et de sport ou les ont carrément supprimés. Elles ne se sont pas attaquées à leur hiérarchie ni au fonctionnement de l'institution. Elles n'ont pas laissé les portes ouvertes ni n'ont menacé de le faire. Ils continuent à nous enfermer dans les cellules, à faire des fouilles, à nous faire passer sous le portique. La machine fonctionne. C'est étonnant le zèle qu'elles apportent à leur tâche. Donc ça, c'est Marina en prison en 2018 pendant un mouvement de surveillants. On peut aussi s'évader sans faire exploser la moindre porte, sans prendre de geôliers en otage ni s'envoler. C'est le versant moins spectaculaire de la soif vitale de liberté que partagent tous et toutes les enfermés et qui recouvre la majorité des faits que le code pénal désigne sous le terme « évasion ». D'après le Conseil de l'Europe, depuis 50 ans, il y aurait entre 700 et 750 évasions recensées en France chaque année. Évidemment, l'administration pénitentiaire est des plus discrètes sur leur nombre, leur localisation et les moyens employés. On sait tout de même que la plupart du temps, hormis quelques prisonniers qui parviennent à s'échapper par ruse ou hardiesse lors d'extraction ou d'hospitalisation, comme en son temps l'ami Kropotkine, il s'agit de personnes qui n'ont pas réintégré la prison après une permission de sortie, se sont débarrassées du bracelet électronique en conditionnel ou ne sont pas rentrées dormir en cellule dans le cadre d'une semi-liberté. Pas de confrontation avec les surveillants autorisés à faire feu, mais le prisonnier, considéré comme un fugitif potentiellement dangereux, devient alors la cible des autres gendarmes. Comme l'écrit Aurélie, sœur d'Angelo Garant abattue en 2017 par le GIGN parce qu'il n'avait pas réintégré la prison de Poitiers. Je cite « Quand quelqu'un essaye de s'arracher de prison, les matons ont le droit de lui tirer dessus. Pour Angelo, il faut croire qu'ils ont laissé le GIGN prendre le relais. Ils ont raconté partout que c'était un évadé, mais moi, j'appelle ça un déserteur. Ils savaient que l'engrenage allait finir par le broyer. Ils ne voulaient pas crever dans leur prison de mort. Angelo avait eu une permission, c'est bien qu'il ne l'avait pas évalué comme un fou dangereux. Alors, pourquoi lui envoyer une des antennes du GIGN ?
S'enfuir de prison, quel que soit le chemin choisi, c'est donc toujours risquer sa vie. Christophe Kider, qui est encore emprisonné aujourd'hui, le sait bien. En février 2009, sa dernière tentative a été stoppée net par une balle policière qui s'est logée dans son poumon. Sur son lit d'hôpital, il déclarait alors à son avocate Delphine Boisel. il faut que tout cela serve à quelque chose. Pour lui, tout cela devait servir à dénoncer la réalité quotidienne des peines éliminatrices, de la torture blanche, des prisons suroccupées, à dénoncer la prison elle-même. Pour tenter de répondre à la volonté de Christophe, l'envolé avait organisé une campagne contre la longueur des peines et l'isolement carcéral avec Catherine Charles, sa mère, infatigable combattante de la liberté, aujourd'hui décédée. Collée massivement sur les murs des villes à l'intention de ceux qui se croient libres, l'affiche martelait « Une évasion ou une tentative d'évasion, ce n'est pas un mauvais film balancé à des millions de téléspectateurs pour les faire frémir. C'est le refus de l'hypocrisie d'une justice qui condamne à des peines sans limite, à des peines de mort à peine déguisées. Il y a peu, 10 prisonniers longue peine de la centrale de Clairvaux ont même réclamé qu'on rétablisse pour eux la peine de mort parce qu'ils préféraient l'euthanasie à une agonie infinie. Une évasion ou une tentative d'évasion, ce n'est pas une provocation. C'est des années d'isolement, de transfert aux quatre coins de l'Hexagone et un traitement spécial pour les prisonniers repris. Une évasion ou une tentative d'évasion, ce n'est pas un coup pour rire. C'est de lourdes peines infligées aux familles et aux proches, même lorsqu'ils ne sont pas déclarés complices. C'est le début d'un calvaire carcéral et judiciaire pour ceux qui ont cherché à arracher un emmuré de son tombeau. Comment ne pas comprendre qu'une mère, un frère, des amis, une compagne refusent de laisser crever un proche? Si on présente les évadés comme des monstres dangereux et sanguinaires lâchés dans la nature, c'est pour essayer de faire accepter à tous la prison comme remède aux maux d'une société fondée sur le profit et la soumission. Ils construisent dans l'urgence de nouvelles prisons, comme hier ils bâtissaient des bars des cités de banlieue, des prisons-écoles pour les enfants, des prisons-hospices pour les grabataires, des prisons-hôpitales pour les malades mentaux, des prisons-bunkers pour les prisonniers dits dangereux. Fin des longues peines, fermeture des quartiers d'isolement, solidarité avec les évadés, leurs familles et leurs proches, concluait l'affiche.
Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné.
Vous parlez
de la compris le fonctionnement de la République.
Entre les parents de ces
policiers. Là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, nous serons libres.
Bonjour, vous êtes bien sur Tapage pour notre première émission de la rentrée.
Sur Canal Sud 92.2, mais aussi en rediffusion sur Spotify. Alors Tapage, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission sur les violences judiciaires qui a lieu depuis un an maintenant.
Et pour cette émission de rentrée, on va commencer par une petite revue de presse de 2-3 trucs qui se sont passés cet été. Et on enchaînera derrière par quelques lectures de chroniques de comparution immédiate.
On a fait notre dernière émission au mois de juin, donc 3 mois sont passés depuis la fête du kiosque. Alors ça aura échappé à personne, il y a eu ce qui s'appelle les Jeux Olympiques, qui ont duré finalement pendant un mois et demi, Jeux Olympiques, plus Jeux Paralympiques. Et la justice, évidemment, a tenu à être au rendez-vous olympique, une justice olympique. On avait déjà eu l'an dernier, à peu près au mois de juillet 2023, quelques premiers commentaires de magistrats à ce sujet.
Ouais. L'année dernière, après la mort de Naël, il y a eu des soulèvements dans les quartiers populaires, et à cette occasion, le gouvernement avait mis en place, avait demandé à la justice de mettre en place un doublement des audiences de comparution immédiate dans certains endroits. Donc avait fermement conseillé à des tribunaux d'ouvrir une autre salle, d'ouvrir sur des horaires élargis, par exemple d'être ouvert le soir ou d'être ouvert le week-end. Le tribunal de Grenoble, d'ailleurs, à cette occasion, s'était pas mal illustré en fermant non seulement à minuit pendant plusieurs jours, mais en étant ouvert aussi le samedi et le dimanche. Bref, à la fin des soulèvements, il y avait eu un bilan de la justice qui s'était déclarée extrêmement satisfaite de la manière dont ça avait été géré, parce que du coup tout avait très bien marché, le recrutement en urgence des magistrats, l'ouverture en urgence de salles supplémentaires avait permis de gérer le flux, comme ils disent, de dossiers qui était arrivé devant les audiences. Et du coup, la conclusion notamment du procureur de Bobigny, c'est que c'était notamment super pour les Jeux Olympiques à venir. Parce que du coup, le fait d'avoir pu accueillir comme ça un flux pareil en toute urgence montrait bien qu'ils étaient préparés à ce qu'allait se passer pour les Jeux Olympiques.
Alors, les Jeux Olympiques approchant, le ministre... L'ex-ministre, bon, on ne sait pas sûr, mais en tout cas, Éric Dupond-Moretti avait, comme c'est l'habitude, fait une circulaire pour demander à ses services de se mobiliser dans ces circonstances exceptionnelles, d'être prêt à accueillir une marée de prévenus qui allait déferler sur Paris et dans les audiences de comparution immédiate. Alors, doublement, voire triplement des audiences. On a eu aussi beaucoup de transferts qui ont été réalisés depuis les maisons d'arrêt de Paris, enfin de la santé et aussi de la première couronne parisienne. On parle de maisons d'arrêt qui déjà avaient une surpopulation très importante. Hein, à Bois d'Arcy, je crois qu'on est à plus de 200%. Alors, ils n'ont pas libéré les gens, hein, mais ils les ont transférés dans des centres de détention. Quand le reste de la peine qu'ils avaient à purger était suffisamment important, ils ont transformé en centre de détention pour faire de la place, pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants. Donc ça a été les grandes manœuvres. Et finalement, 2-3 semaines plus tard, tout le monde s'est félicité. Je crois qu'il y a un journal de petites annonces légales, le journal des sociétés qui a pu titrer l'apocalypse judiciaire n'a pas eu lieu. Finalement, les journalistes nous disent, et la chancellerie évidemment avant eux, qu'il y a eu très peu d'infractions en lien avec les Jeux Olympiques. Alors ça, c'est aussi une manière de flatter le ministre ou l'ex-ministre, enfin, on ne sait toujours pas, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, parce que dire qu'il y a eu très peu d'infractions en lien avec les Jeux Olympiques, c'est aussi montrer en quoi l'occupation de l'espace public par des milliers et des milliers de gendarmes, de policiers, voire de militaires de tout pays, avait eu pour effet de dissuader les délinquants d'accomplir leur forfait. Bon.
Sans qu'on sache d'ailleurs très bien ce qu'ils entendent par...
Alors, c'est ça. C'est quoi une infraction liée aux Jeux Olympiques? Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. C'est un vol de flamme ou c'est pas des vols de raquettes de tennis. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas exactement. À partir de... Alors, en droit, on a toujours ce problème. Sont bannis de la comparution immédiate des délits politiques. On n'a jamais su vraiment ce que c'était. Mais alors là, il y a les délits en lien avec les Jeux Olympiques. Et c'est pareil, on sait pas trop ce que c'est. Alors du coup, ils sont très contents parce que leur dispositif a marché et que finalement, il n'y a pas eu l'afflux attendu d'infracteurs en lien avec les Jeux Olympiques. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Les salles sont restées vides?
Exactement. Et puis maintenant, ils vont les fermer parce qu'après tout, des salles de comparution immédiate ouvertes inutilement, c'est quand même dommage.
Eh ben, figurez-vous que non.
C'est pas vrai.
Eh ben, oui. Alors, il y a deux choses à dire sur ce bilan, c'est que il y a eu plus de comparutions immédiates que l'an dernier. Plus combien de...
Alors, par exemple, au tribunal de Bobigny, il y en a eu plus 125%.
C'est considérable.
Donc, c'est plus que doublé.
Oui, voilà.
C'est ça, on est passé de 70 à...
À 105.
À 105. Alors, il faut savoir que par ailleurs, ils prennent comme repère l'année dernière, et comme le disait Marie tout à l'heure, l'année dernière, c'est une époque où fonctionne la comparution immédiate à fond, parce que c'est la répression judiciaire des soulèvements liés à la mort de Naël. Donc... On a été encore plus loin que l'an dernier à la même époque, plus que doubler les chiffres. Donc en fait, quand il y a eu un déploiement comme ça, un doublement, voire un triplement, à Bobigny c'est un triplement des audiences de comparution immédiate, bah, ils les ont remplis. Alors au bilan, maintenant le problème c'est que après avoir jugé autant de gens, avec un outil si efficace, la comparution immédiate. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein, mais majoritairement, ça a été des comparutions immédiates qui ont été utilisées pour les audiences. Sinon, un développement toujours très important du déferment CRPC, ça, on avait pu vous en parler dans une autre émission.
C'est-à-dire le plaider coupable à la française.
Voilà, juste après la garde à vue. Où en gros on vous dit, soit vous reconnaissez les faits, vous acceptez de partir 6 mois en prison, vous acceptez telle peine, peut-être même avec sursis, et vous évitez la comparution immédiate, soit si vous êtes joueur, on vous envoie cet après-midi même en audience de comparution immédiate. Donc ça a vraiment un très grand développement de ces procédures-là. Et alors quel est le bilan? Parce qu'à Bobigny, du coup, ils ont eu 3 audiences par jour dans plusieurs villes de la petite couronne.
Et alors, si les chambres correctionnelles devaient repasser à 2, en fait, une 3e pourrait quand même rester ouverte à Bobigny. Hein. Et le président du tribunal a cette phrase qui est quand même extraordinaire, Monsieur Peyman Gallet-Marsba, il dit « Le tribunal est loin d'avoir étanché sa soif de justice ». Donc voilà, c'est aussi ça la conclusion des JO. Hein. Ça a permis d'aller plus loin dans la soif de justice.
Voilà, c'est ça.
Des tribunaux.
Et ils vont peut-être laisser cette salle ouverte, comme ils veulent laisser les anneaux sur la tour Eiffel et la vasque dans le château des Tuileries. Voilà. Pourquoi pas finalement laisser toutes ces salles de comparution immédiates. Donc on voit que dans des moments dits exceptionnels, on mobilise les forces de l'ordre, des moyens de répression considérables. Et une fois que l'événement est passé, on se dit, bah, en fait, pourquoi on garderait pas tout ça? Donc évidemment, ça c'est à surveiller.
Après, il s'est pas passé que les Jeux Olympiques cet été. Il y a eu aussi un genre de cirque politique. Donc on vient tout juste d'avoir un Premier ministre.
Bravo. Bienvenue à toi, Michel Barnier.
T'allais le féliciter, je trouve que tu vas un peu trop loin, malgré tout.
Les derniers seront les premiers. C'est dans la Bible. Et voilà comment les derniers aux élections arrivent Premier ministre. Bon, on n'est pas une émission qui fait du commentaire politique, mais est-ce qu'on sait un peu qui est ce Michel Barnier?
Alors, on sait qu'il est bien de droite, on sait qu'il est républicain, que c'est le plus vieux Premier ministre que la France ait eu, qui succède donc au plus jeune. Il a 73 ans. Dans ses propos bien de droite, peut-être on pourrait écouter ce qu'il proposait en... C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans.
En 2022, en fait, effectivement, il se trouve que Michel Barnier était candidat pour être le candidat du parti Les Républicains au présidentiel de 2022. Bon, ça n'avait pas marché pour lui, mais Emmanuel Macron a finalement reconnu son talent à 2 ans de retard. Donc on sait peu de choses au niveau de la justice hein, sur Michel Barnier, c'est pour ça qu'on a été un petit peu obligé de fouiller. On sait qu'en 1981, il s'est opposé à la dépénalisation de l'homosexualité. C'est un peu vieux. Alors qu'est-ce qu'il disait il y a 2 ans? Ben, il avait des propositions...
Innovantes.
Comme candidat à la présidence de la République, je veux traiter les sujets qui inquiètent les Français. Et donc marquer d'abord, s'agissant de la question de fond que vous avez posée, justice, police, le soutien que j'apporterai sans faille aux forces de sécurité. Impunité zéro et soutien aux gendarmes, aux policiers, à tous ceux qui détiennent l'autorité publique, aux sapeurs-pompiers, aux élus locaux, qui sont souvent agressés, aux professeurs, pour qu'ils sachent que l'autorité publique sera réaffirmée. Ça sera un choc. Un électrochoc que nous devons faire en matière de sécurité, qui est le deuxième grand échec de ce quinquennat. Je voudrais aussi revenir sur la question des moyens de la justice que vous avez un peu passé trop rapidement. Il y a des moyens que nous allons apporter à la justice comme à la police. Moderniser les commissariats, construire 20 000 places de prison, des centres éducatifs fermés dans chaque département, 250 postes, voilà ma proposition de plus pour les juges et pour les greffiers. Et puis il y a d'autres moyens, si on regarde un peu plus dans le détail. Par exemple, la comparution immédiate dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi ne pas la tripler ? Et c'est facile, sans moyens supplémentaires, en donnant la mission à un seul juge au lieu de trois de prononcer un jugement en comparution immédiate. Voilà quelques idées pour aboutir à une justice qui ne soit pas laxiste, comme elle a pu l'être quelquefois, qui soit rapide, avec des peines exécutées immédiatement et des peines planchées et une double peine.
Bon, bon, bon.
Alors, c'était donc notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, en 2022.
Oui.
Là, pour l'instant, il a rien annoncé. Hein, comme,
Non, on ne sait même pas si Éric Dupond-Moretti, ministre démissionnaire, va rester au gouvernement.
Mais en tout cas, ce qu'il prônait en 2022 pour son parti, Les Républicains, laisse craindre qu'il soit à peu près sur la même ligne sécuritaire.
Ouais, c'est un ensemble d'idées classiques, plus de places de prison, là il parle de 20 000, plus de comparutions immédiates, des peines planchées évidemment. Cela dit, ce qui est un peu marrant, c'est que son idée pour les comparutions immédiates, elle est complètement débile, parce que effectivement, il y a trois juges en comparution immédiate, il y a trois magistrats, il y a le président ou la présidente de chambre de comparution immédiate, qui est accompagné de deux assesseurs. Mais en fait, son idée, c'est de se dire, bah au lieu d'avoir trois magistrats, il y a qu'un seul magistrat, bah ça nous fait trois audiences au lieu d'une. On va pouvoir faire passer beaucoup plus de gens. Mais c'est mal connaître la comparution immédiate, parce que les deux assesseurs qui sont en comparution immédiate sont rarement des magistrats du pénal. Ça peut être des juges aux affaires familiales, par exemple. Enfin, des gens, c'est pas leur discipline, et ils pourraient pas, eux, devenir diriger une comparution immédiate. Ça, c'est pas du tout leur métier.
Globalement, toutes ces idées sont quand même un peu nazes. On a l'impression qu'il a sorti les cartes des idées classiques de la droite.
Tout le monde a les mêmes.
Que tout le monde ressort. Il a fallu qu'il casse des mots peine planchée.
Alors ça, c'était son innovation quand même, le triplement des comparutions immédiates. C'est son idée à lui.
C'est son idée.
Voilà. Il faut pas quand même lui enlever tout mérite.
Ils en ont tous une. Ciotti, c'était faire payer les détenus à leur propre peine d'incarcération. Oui. Chacun essaye de se démarquer à sa manière.
Aux États-Unis. Un peu,
exactement. Ouais. Mais bon, et puis par ailleurs, il faut quand même noter une régression ici. Il ne s'agit pas de dire que la justice est mieux rendue quand elle est rendue par trois juges, mais le principe à la base, c'est la collégialité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un seul magistrat qui prenne une décision, mais que quand ils délibèrent, ils ont tous une voix. Et que ça donne lieu à une discussion. Ça, c'était un principe de base pendant très longtemps. Et depuis 20 ans, et notamment à compter des lois Perben 1 et 2, il y a de plus en plus de procédures qui sont jugées à un seul juge. Et ça n'a cessé de s'étendre. C'est la raison pour laquelle, effectivement, cette proposition de Barnier, elle paraît complètement impraticable, mais elle correspond aussi à une tendance. En fait, la comparution immédiate, on a déjà réussi à tout réduire. On a réduit les délais de jugement, on fait des audiences expéditives, etc. C'est vrai, à quoi bon avoir trois juges, un seul juge pourrait le faire, donc bon.
On est toujours dans les mêmes vieilles logiques de la justice, d'accélérer le temps de traitement des dossiers pour en caser plus. Incarcérer plus, toujours les mêmes choses.
Voilà, alors on ne sait pas qui il va nommer comme ministre, on ne sait pas si Dupond-Moretti veut le rester, même si après y avoir goûté, il est étonnamment silencieux depuis quelque temps. Toujours est-il qu'en tout cas, dans son allocution devant l'hôtel Matignon d'investiture, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, il a quand même mis en avant deux thèmes très importants et chers à son cœur, la sécurité et l'immigration. Vraisemblablement, il y aura un gouvernement lors de la prochaine émission de Tapage et on pourra faire un petit point sur les annonces à ce niveau-là. Bon. Alors l'actualité aussi de cet été, ben c'était malheureusement et toujours la répression en Kanaky avec des mesures qui ont été prolongées là vendredi dernier, des mesures d'interdiction de déplacement, d'interdiction d'acheter de l'essence, un couvre-feu, etc. C'est un bilan qui s'élève à 11 morts. Alors Tapage, un de ses projets, un projet même à très court terme, c'est de consacrer une émission entière sur la justice en Nouvelle-Calédonie, qui sera donc normalement, et on l'espère, celle du mois d'octobre.
Ce sera donc le 10 octobre. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire, si vous avez des infos, n'hésitez pas. On a une adresse mail qui est tapage-radio@proton.me. tapage-radio@proton.me. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, soit pour ça, soit pour autre chose.
On lit vos mails et on répondra, même si là, on s'était rendu compte qu'on avait un peu de retard.
Ça donne cette bizarre impression qu'on en a reçu des tas.
Ben oui. Autre chose, mais pourquoi le signaler, ben si quand même, c'est-à-dire que dans la torpeur de l'été, il y a quelques juges qui ont été un peu réveillés par des recours à l'initiative de l'Observatoire international des prisons, notamment pour les conditions indignes de détention de plusieurs maisons d'arrêt, alors de tête, Albi, Tarbes, Carcassonne, je crois Tours aussi. Bon, point commun de tous ces recours, ils ont tous été rejetés. Certains juges indiquant qu'il n'y avait pas d'urgence à se prononcer sur ces atteintes et ces traitements inhumains et dégradants.
Du coup, on va écouter là maintenant un morceau de musique avant de passer à la suite de l'émission.
I sit alone in my four-cornered room staring at candles. Oh, that shit is on? Let me drop some shit like this here. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window, investigating a joint for traps, taking my telephone for taps. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. I make big money, I drive big cars, everybody know me. It's like I'm a movie star, but late at night, something ain't right. I feel I'm being tailed by the same sucker's headlights. Is it that fool that I ran off the block? Or is it that nigga last week that I shot? Or is it the one I beat for $5,000? Thought he had cane, but it was gold, met a flower. Reached under my seat, grab my papa for the suckers. Ain't no use to me lying, I was scared than a motherfucker. Put the left in the Popeyes and bail out quick. If it's going down, let's get this shit over with. Here they come, just like I figured. I got my hand on the motherfucking trigger. When I saw him, make your ass start giggling. Three blind, crippling, crazy senior citizens. I live by the sword. I take my boys everywhere I go because I'm paranoid. I keep looking over my shoulder and peeping around corners. My mind is playing tricks on me.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2 et c'est notre émission de rentrée. Et donc pour cette émission de rentrée, Marie, tu voulais nous faire part de deux observations de comparution immédiate qui ont eu lieu avant l'été.
Exactement, qu'ont toutes les deux pour point commun que le prévenu soit une personne atteinte de troubles psychiques, qui sont toutes les deux traitées très différemment. Du coup, si ça vous va, je vais pas les lire, je vais vous les raconter. La première, je n'ai pas encore donné de titre, ça s'est passé en mai dernier. On reproche à la personne qui comparaît dans le box d'avoir menacé l'employé d'un magasin avec un club de golf, donc le prévenu comparaît pour violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail. Donc le président résume rapidement les faits, mais avant il a cette question que moi j'avais trouvée assez marquante de lui demander « Mais est-ce que vous n'avez pas de troubles psychiatriques ? Est-ce que vous n'avez jamais été suivi par un psychiatre ?» À ça, le monsieur dans le box répond que non, jamais, qu'il va parfaitement bien. Ce qui fait un peu, dès à ce moment-là, ricaner le président, parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir, mais là, dans le public, on sent chez la personne qui comparait un peu d'agitation et peut-être un peu de bizarrerie, quoi. En tout cas, là, ce qui est frappant, c'est que le président a eu ce soupçon, et pour autant, l'audience a continué absolument comme si de rien n'était. Le président résume donc les faits. Ce qui s'est passé, c'est que le prévenu est arrivé dans un magasin qui est en face d'un terrain de golf et a demandé à emprunter un club de golf pour faire une partie. L'employé a refusé. Le monsieur s'est agacé. Il a brandi le club de golf de manière menaçante face à l'employé qui lui a laissé le club. En gage de bonne foi, pour bien dire qu'il allait revenir, le prévenu a même laissé une carte de fidélité. Et est parti avec le club de golf.
Carte de fidélité.
Carte de fidélité d'autre chose, je ne sais plus. D'un autre magasin, de quelque chose d'autre. Il est parti faire sa partie et il est revenu 10 minutes plus tard. Entre-temps, les employés du magasin avaient appelé les forces de l'ordre qui sont venues l'arrêter à ce moment-là. Pour finir le résumé des faits, le président le cite parce qu'au moment où le prévenu se fait arrêter par les forces de l'ordre, il n'est pas très content et il lance à l'employé « Si jamais tu me fais rentrer à Seis, je fais cramer ton commerce ». Voilà, là, le prévenu interrogé là-dessus, il dit « Bah voilà, quand on est fâché, on s'emporte, on dit des conneries, moi je suis franc, moi je suis un homme chef ». Le président, il aime pas trop qu'on l'appelle chef, donc il lui fait remarquer. Déjà, dès ce moment-là, ça fait un peu naître des rires dans la salle, et c'est une des choses qui était un peu frappante dans cette audience, c'est qu'il y avait deux classes de lycéens et de lycéennes qui étaient là, qui étaient visiblement mal préparées et qui ont un peu ricané tout le long. Parce que, comme on dit souvent, ces audiences de comparution immédiate, en fait, c'est des ambiances particulières. Le prévenu, quelles que soient ses raisons, peut répondre un peu à côté, soit qu'il n'ait pas bien compris la question, soit qu'il essaye de se défendre d'une manière qu'on peut trouver maladroite. Donc ça peut générer des situations un peu absurdes et déclencher un peu de rire nerveux, quoi. Mais il faudrait que ces classes, quand même, se rendent compte qu'en fait, ricaner bêtement dans une salle d'audience où quelqu'un va être envoyé en prison à la fin, c'est quelque chose qu'il vaudrait mieux vraiment pas faire. Et la spécificité de ce président-là, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il aime bien ça. Il aime bien faire rire la salle aux dépens des prévenus. Donc là, le président, c'est peu de le dire qu'il a trouvé, là, dans le prévenu, un bon client. Il est extrêmement content de ça. Et c'est un peu ce qui va se passer tout au long de l'audience. Le président va installer une connivence avec le public de manière à faire rire aux dépens du prévenu. Donc ça se voit, par exemple, très bien dans la manière dont il l'interroge sur cette histoire de partie de golf. Il lui dit « Vous voulez faire une partie de quoi, déjà ?» Le monsieur dans le box répond « De golf ». Le président prend l'air très ostensiblement stupéfait. De golf. Bah oui, de golf. Et en fait, là, les gens, ils tiennent plus dans la salle, donc il y a vraiment des gens qui éclatent de rire. Qui éclatent de rire à tel point qu'en fait, autant le président ne dit rien, alors que ce serait théoriquement à lui de maintenir la police de l'audience et de dire à la salle de se calmer, autant l'assesseur, un des deux assesseurs qui est à côté de lui, dit ouais, « ça va pas du tout », donc il prend la parole pour dire « on n'est pas au spectacle ici », pour essayer de rétablir le calme. Du coup, effectivement, toute l'audience se passe de cette manière, où le président s'amuse un peu des réponses du prévenu, dont je redis qu'il semblait déjà évident à ce stade qu'il souffrait de troubles psychiques, le président lui-même ne l'ignorant pas, vu que ça a été tout bonnement la première question qu'il lui a posée au début de l'audience. Il y a, comme souvent, pas mal de questions qui portent sur son casier. C'est un monsieur qui a 26 mentions à son casier, qui a 28 ans et 26 mentions. Donc, chacun, là, procureur, président, assesseur, fait remarquer que, quand même, c'est beaucoup de mentions pour quelqu'un de si jeune. Il est interrogé, d'ailleurs, sur sa dernière peine, à savoir, il a insulté quelqu'un à l'aéroport, alors même qu'il était sous bracelet électronique. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour un des assesseurs de poser des questions là-dessus. Le 26 mai 2023, vous avez été interpellé pour refus d'obtempérer. Vous êtes convoqué au début de l'année 2025. Les faits ont été commis à l'aéroport où vous avez insulté un des agents. Vous étiez sous bracelet électronique, mais visiblement, ça ne vous a pas dissuadé. Le prévenu, d'ailleurs, répond à ce moment-là que le bracelet, ça ne dissuade pas et que la prison, ça n'a jamais dissuadé personne. La réponse du prévenu ne désarme pas l'assesseur qui conclut « Mais comment on fait dans ce cas-là pour éviter que ça se passe ?» Ou bien on accepte de vivre dans ce monde où des gens comme vous peuvent en insulter d'autres. Après l'interrogatoire, c'est le moment pour le procureur de faire ses réquisitions, c'est-à-dire de résumer les faits, de demander une peine. Il commence par dire « Monsieur fait son cinéma ». C'est un peu, encore une fois, faire semblant de ne pas voir qu'il se passe quelque chose et l'accuser juste d'une espèce de bizarre mise en scène.
Dont on ne sait pas très bien à quoi elle lui servirait. Exactement. Par ailleurs. Enfin, c'est toujours ça qui est un peu étonnant.
Donc, bien sûr, il juge les faits très graves et par ailleurs, il le dit explicitement, « Eut égard à la personnalité du prévenu, je vais demander une peine en rapport ». Avec la gravité et la personnalité du prévenu. Du coup, il demande ni plus ni moins que 1 an de prison ferme avec incarcération, avec maintien en détention, plus 6 mois de sursis probatoire.
Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les faits reprochés exactement à cette personne ?
Eh bien, le prévenu a brandi un club de golf. C'est-à-dire, ce sont des violences sans ITT. Il n'a rien cassé, il n'a tapé personne. Mais voilà, il a un casier avec 26 mentions et un comportement jugé inquiétant par le tribunal. Derrière, c'est l'avocate qui le prend le relais avec une plaidoirie vraiment lamentable. Elle commence par un peu s'excuser d'être là en disant bah voilà, monsieur a des problèmes de communication évidents. Elle ajoute même monsieur a des problèmes tout court d'ailleurs. Et annonce tout de suite qu'elle va essayer de trouver, malgré tout, quelques toutes petites choses positives dans ce dossier. Elle commence par dire, par exemple, vu qu'il n'y a pas eu de confrontation dans ce dossier, il n'y a pas d'éléments matériels, donc c'est parole contre parole. Mais tout de suite, elle désagrège immédiatement ce qu'elle vient de dire elle-même en disant, bah, faut reconnaître après que d'un côté, on a un gentil stagiaire de magasin qui n'est pas connu des services de police, de l'autre, on a un dangereux récidiviste. Elle dit aussi, mais attention, il y a des choses positives dans son dossier. Regardez dans l'enquête sociale rapide, il est indiqué qu'il a arrêté de fumer depuis la naissance de sa fille. On sait dire si c'est une ligne de défense lamentable. Et puis elle conclut en disant, étant donné que monsieur ne reconnaît pas les faits, je suis contrainte de vous plaider la relaxe. Ça aussi, c'est un genre de transgression. Effectivement, en tant qu'avocate, elle est censée, elle a un mandat de son client qu'elle est censée suivre. Mais normalement, l'éthique professionnelle voudrait qu'on n'annonce pas qu'on a reçu une demande débile, qu'on ne suit que parce qu'on y est obligé. Donc c'était vraiment une défense incroyablement problématique. Et la fin, la conclusion de cette histoire, ça n'a pas fait un pli, c'est qu'effectivement, le président, après une courte délibération, le président et ses assesseurs l'envoient pour 1 an de prison à Saïs avec mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcération immédiate le soir même. Le prévenu n'a pas tout de suite compris la peine, donc a demandé un peu des précisions qui lui ont été données de manière incroyablement désagréable par le président, et entendant la peine, le prévenu a explosé. Ce que par ailleurs on sentait venir depuis le début, en fait, parce qu'il avait été titillé pendant toute l'audience par le président, qui avait vraiment cherché volontairement à le mettre en difficulté, à le pousser dans ses retranchements, et qui s'était fait... qu'avait savouré le fait que le type commence de plus en plus visiblement à monter en pression, à s'agiter et à
faire rire la salle
et
contre
faire
lui.
À faire rire la salle à ses dépens. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, le type, entendant qu'il allait retourner à Seis, il explose et il est emmené violemment de la salle par les forces de l'ordre qui sont présentes dans le box. Il part, il est emporté en insultant le tribunal et toute la salle.
Ce qui est un peu fou, c'est que... visiblement, la question d'éventuel suivi psy, des troubles psy, etc., c'est le président qui la pose dès le début, parce qu'il a l'air de considérer à la lecture du dossier qu'il y a un problème, mais après, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, finalement.
Ouais, alors le président lui-même, il revient à une occasion, parce que, par exemple, le prévenu, à un moment, a annoncé aux salariés du magasin où il a emprunté le club de golf qu'il était tueur à gages. Donc le président rapporte cette histoire et à ce moment-là dit bah, « c'est pour ça qu'il me semble que peut-être qu'il est possible que vous ayez des troubles psychiatriques ». Parce que bon, ça lui semblait un peu curieux cette histoire.
Ce qui aurait permis, le président a le pouvoir, hein, c'est bien ça, de suspendre l'audience s'il juge que
si la justice prenait au sérieux ses propres règles, c'est évidemment ce qu'il devrait faire. Il a un fort soupçon de troubles psychique, et juste le soupçon devrait normalement, on imagine dans une situation plus moralement acceptable, faire dire on arrête tout, on demande une expertise en urgence qui déterminera si le discernement de monsieur a été aboli ou altéré.
Oui, c'est ça, c'est que l'expertise psy, elle est censée être là pour obéir au principe de personnalisation aussi de la sanction. Alors parce qu'il y a d'un côté, comme tu le dis, les questions de responsabilité pénale. Est-ce que la personne avait son discernement? Est-ce qu'elle avait son discernement altéré? Mais aussi, en présence de quelqu'un qui est en souffrance et qui a commis des faits dans un contexte de souffrance psychique, théoriquement, le tribunal doit adapter la sanction et prendre en considération ce contexte de trouble. Donc c'est censé servir à au moins deux choses, sans pour autant que ça marche. Et on avait déjà fait par ailleurs une émission de là-dessus. Mais parce que finalement, il est condamné à un an de prison, c'est ça que ouais. Tu disais. La vraie question qu'on pourrait aussi se poser, c'est que tu disais la justice ne se donne même pas la peine d'appliquer les propres règles, alors même qu'elle sent qu'il y a un problème. S'il y avait eu une expertise, la peine aurait-elle été différente? C'est une vraie question. C'est très choquant qu'elle ait pas lieu, parce que c'est très choquant qu'un magistrat constate qu'il y a une problématique de souffrance psychique sans aller chercher plus loin, parce que ça fait partie des faits, ça fait partie de la personnalité. Mais pour autant, malheureusement, on peut formuler l'hypothèse que si on avait eu une expertise psychiatrique qui disait qu'il était altéré, ou même pas, juste malade et donc potentiellement dangereux, et en fait je crois qu'on va y revenir aussi dans le cadre de l'autre chronique, peut-être qu'il aurait été condamné à la même peine.
C'est tout à fait possible, voire probable. D'ailleurs, la deuxième chronique dont on va vous parler aujourd'hui, c'est effectivement ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une expertise, il y a un trouble psychiatrique grave absolument avéré, pour autant l'issue est très semblable.
Mais là, ce qui est quand même frappant dans ce cas-là, c'est que il y a une peine qui est quand même assez conséquente, parce qu'un an de prison, c'est pas rien, pour des faits qui sont quand même assez, j'allais dire légers, pour des faits qui lui sont reprochés, qui sont pas des faits de violence physique directe, quoi.
Ouais.
Et qui, en fait, c'est sa personnalité et son casier qui sont jugés plus que, ouais. Plus que les faits en tant que tels, quoi.
Mais c'était de ça dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est que on sait très bien qu'en comparution immédiate, c'est bien souvent un profil social qui est jugé plus qu'une infraction. Là, dans un cas comme celui-là, c'est quasi un profil psychique aussi qui est jugé au-delà de l'infraction elle-même.
Sans qu'on ait d'expertise, par ailleurs.
Sans juger. C'est-à-dire qu'au doigt mouillé, il est estimé au doigt mouillé par les magistrats comme quelqu'un d'explosif, de peu fiable, de dangereux.
De dangereux, en fait.
Et même par sa propre avocate, d'après ce que oui. Tu dis. C'est ça qui...
Mais ça va nous donner l'occasion de creuser un petit peu ces notions de dangerosité avec la deuxième chronique, mais peut-être qu'on pourrait écouter
faire un morceau de musique. If you wanna live, treat me good. If you wanna live, live, I beg you, treat me good. I'm like a walking razor, don't you watch my size, I'm dangerous. Said I'm dangerous. I'm like a walking razor. Don't you watch my size? I'm dangerous. Dangerous. If you are a bully, treat me good. If you are a bully, I beg you, treat me good. I'm like a stepping razor. Don't you watch my size? I'm dangerous. Dangerous. I'm like a stepping razor. Don't you watch my size? I'm dangerous. Dangerous. If you are a chucky, nobody chucky from me. If you are a chucky, nobody chucky from me. Yeah. I'm like a stepping razor. Don't you watch my size? I'm dangerous. Vous êtes toujours à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2. Donc là, Marie vient de nous faire part d'une audience de comparution immédiate qu'elle a observée avant l'été. Un cas, en fait, où une personne était jugée sans expertise psy, avec visiblement des quelques problèmes psy, et où on se rend compte finalement que c'est plus un profil et un casier qui est jugé qu'une personne en tant que telle, que des faits, quoi. Et là, du coup, tu voulais comparer cette affaire à une autre que tu as observée?
Oui, j'ai été voir la deuxième affaire là dont on va vous parler maintenant. C'est une affaire qui a eu lieu en juillet dernier. Quand le président, comme d'habitude, en début de séance, le président résume les faits, il explique que ce qui s'est passé, c'est que les forces de l'ordre ont reçu un coup de fil d'un ami, d'un couple, totalement en panique, disant que son pote était devenu fou, était devenu menaçant et violent, et qu'il était là, seul, à l'appartement, avec sa compagne et leurs enfants, qu'il fallait intervenir de toute urgence. Quand les forces de l'ordre arrivent, ils voient que le garçon est en plein milieu d'un épisode de crise. Sa compagne, sur le moment, dans des déclarations spontanées, dit « ben oui, il a décompensé, il a saisi un couteau, il a essayé de se trancher la gorge, je me suis interposée, et dans ce cadre-là, en fait, il y a eu des coups qui ont été échangés ». Donc là, le garçon comparait. La question du trouble psychiatrique se pose immédiatement, parce que de fait, le garçon a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son plus jeune âge, que par ailleurs, il a fait plusieurs séjours en prison aussi, toujours en rapport avec ses troubles psychiatriques. Donc il a un dossier très important, et personne, là, pour le coup, ne doute qu'il y a un problème psychiatrique majeur. Tout de suite, la présidente va lui demander « Est-ce que vous vous soignez ?» À ce moment-là, le prévenu explique qu'en fait, il s'est volontairement sevré lors de son dernier séjour à la prison de Seyss, parce qu'en fait, il se faisait racketter les médicaments qui lui étaient prescrits. Là, la présidente, qui doute de rien, lui dit « Mais est-ce que vous avez alerté les autorités? Est-ce que vous l'avez signalé au moins ?» Et bien sûr, prévenu dit « Bah oui, je l'ai signalé au médecin, au psychiatre, qui m'a dit « Bah tant pis pour les médicaments, on va faire sans, quoi. » Donc, il explique que comme ça, pendant son dernier séjour en prison, il s'est sevré des médicaments très lourds qu'il doit prendre habituellement pour son trouble psychiatrique. Et que quand il est sorti de prison, il n'a pas réussi à retrouver une ordonnance et à retrouver un suivi. Donc, il explique qu'il a appelé, qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts, qu'il a appelé beaucoup de centres médico-psychologiques, qu'il a appelé beaucoup de psychiatres, qu'il a eu... des peines très importantes à avoir un rendez-vous, qu'il a néanmoins enfin réussi à obtenir un rendez-vous plusieurs mois plus tard et avoir un rendez-vous au centre médico-psychologique de Marengo, voilà, et qu'en tout cas il met tout en œuvre pour récupérer un traitement. Donc la présidente évidemment évoque son casier. Il y a un peu de violence, de refus d'obtempérer, un peu d'outrage. Et il y a aussi un refus de se faire contrôler pour prise de substances, pour prise de stupéfiants. Et là encore, la présidente s'engouffre le dedans. Elle dit « Vous savez que vous avez un grave problème psychiatrique et pourtant vous consommez de la drogue. »
Il faut à tout prix chercher une faute, en fait.
Il faut à tout prix chercher une faute. Et la présidente, derrière, le dit explicitement, comme si elle le prenait à témoin. « Est-ce que ça n'est pas de la dangerosité sociale, ça, monsieur ?» Et là, le prévenu, qui était vraiment en pleine, pour le coup, visiblement bien préparé à cette audience, très calme, malgré la bêtise des questions qui étaient posées, et l'agressivité et la méfiance des magistrats, répondait très calmement à toutes ces questions, disait qu'il ne savait pas si c'était de la dangerosité sociale. En revanche, ce qui est certain, c'est que faute de pouvoir obtenir le traitement dont il avait impérativement besoin, lui se sentait en danger. La présidente a bien sûr évoqué l'expertise psychiatrique qui avait eu lieu, et d'ailleurs je le dis au passage, qui avait eu lieu pendant qu'il était en détention provisoire, parce que bien sûr, par manque d'experts, souvent en comparution immédiate, les expertises ne peuvent pas être faites en garde à vue au commissariat comme elles devraient l'être, donc la personne est envoyée en détention provisoire à Seyss pendant un mois et demi, et l'expertise psy a eu lieu là. Donc dans cette expertise psy, il est dit par l'expert psychiatre que le discernement n'est ni altéré ni aboli. En revanche, le psychiatre estime qu'il y a un trouble borderline et que le prévenu fait preuve d'une violence structurelle, c'est les mots qui sont utilisés, quand il n'est pas traité. Là encore, il y a tout un dialogue avec le prévenu qui explique qu'il fait tout ce qu'il peut pour retrouver un traitement et retrouver des médicaments et être soigné comme il le faut, quoi. Ce qui était aussi assez intéressant dans cette audience, c'est qu'en fait, sa compagne était là. Donc, elle a été invitée à s'avancer à la barre pour témoigner. Et là, elle prend vigoureusement la défense de son compagnon. En tout cas, elle confirme ce qu'il vient d'expliquer. Elle dit, bah voilà, moi, j'étais avec lui. Ça fait des mois qu'on essaye d'avoir un contact avec un psychiatre, de retrouver une ordonnance, de faire qu'il soit pris en charge et soigné correctement. C'est des déclarations qui suscitent toujours un peu de mécontentement de la part des magistrats, qui n'aiment pas trop bien, finalement, quand les compagnes des prévenus ne portent pas plainte, qui était son cas à elle. Et d'ailleurs, elle a répondu à la question « Quelles sont vos intentions pour l'avenir ?» elle a dit qu'elle ne comptait pas le quitter. Donc ça, c'est des phrases qui sont accueillies avec un peu de réprobation par le tribunal. Voilà. La procureure, dans ses réquisitions, reprend en fait la question de la dangerosité qui a été soulevée par la présidente. Elle la reprend notamment en citant l'expertise psychiatrique qui a diagnostiqué une dangerosité. Du coup, à ce titre-là, et aussi en raison de son casier, bien sûr, et de la gravité des faits, comme c'est toujours le cas, elle demande une peine de 8 à 10 mois de prison assortie du maintien en détention. Et elle conclut très sereinement que le prévenu n'est pour l'instant pas en capacité d'entendre qu'il doit se soigner. Alors, ce qui est fou, parce qu'il a quand même passé l'intégralité de l'audience à dire qu'il faisait absolument tout ce qu'il pouvait. Or, ajoute-t-elle, nous devons protéger la société. Par ailleurs, seule une détention pourra lui permettre de stabiliser son état. Donc, c'est-à-dire qu'elle va un peu dans tous les sens. À la fois, il faut neutraliser visiblement ce monsieur parce qu'il est dangereux pour la société. À la fois, quasi à l'entendre, ben, la prison va enfin lui permettre de se soigner. Donc, vraiment, c'est aussi lui rendre service que d'aller l'enfermer à Seyss. Ça fait écho à ce que disait un peu plus haut quand même, dont j'ai oublié de parler, la présidente, qui lui dit très explicitement à un moment, bon, vous prétendez qu'on n'a pas très bien compris pourquoi vous arrêtez de vous soigner, mais vous comprendrez bien que nous, magistrats, nous sommes garants de l'évaluation de votre état, et nous avons pour devoir de protéger la société face à des gens comme vous. Pour finir, le tribunal décide de l'envoyer en prison. Il est condamné à 6 mois et maintenu en détention. Donc la présidente s'est justifiée de ce choix, de cette peine relativement importante, par ce qu'elle a appelé une vraie dangerosité sociale. Et elle aussi a bien précisé que c'était, à son avis, la seule manière de s'assurer qu'il allait être pris en charge correctement. Et elle a conclu en disant que qu'un médecin coordonnerait son parcours médical à sa sortie via le juge d'application des peines.
Bon, ben là, c'est... Voilà quelqu'un qui a été vu par un expert. Alors l'expert, il dit pas qu'il est altéré, il dit pas qu'il est aboli. Il dit qu'il y a un trouble psychiatrique quand même. Mais après, en fait, il va se prononcer sur la dangerosité.
Ouais.
Et ce que tu disais, visiblement, ça c'est repris comme un hochet par la présidente qui va agiter ça pendant toute l'audience, la dangerosité sociale. Sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire. En fait, c'est quoi la dangerosité sociale, on ne sait pas. Du coup, c'est la pire des situations. Il y a une expertise, mais tout ce que nous dit cette expertise contribue au-delà, en fait, de dire ben voilà quelqu'un qui est manifestement en souffrance. L'expert nous dit voilà qui est quelqu'un qui est manifestement dangereux et sans que ça puisse aller en atténuation de sa responsabilité à aucun moment.
Il faut bien préciser que le fait de se prononcer sur la dangerosité du prévenu, c'est pas une lubie de l'expert psychiatre, c'est une question qui lui est explicitement posée par le parquet quand il le mandate pour procéder à cette expertise. Il faut s'imaginer, là, quand un expert est mandaté pour faire une expertise, il doit répondre à une liste de questions établies par le parquet qui sont quand même toujours les mêmes. Le discernement du prévenu est-il altéré ou aboli au moment des faits ? Le prévenu est-il curable ? Le prévenu présente-t-il une dangerosité psychiatrique ou bien une dangerosité sociale ? Y a-t-il des recommandations pour un suivi socio-judiciaire derrière ? Toutes les expertises psy répondent à cette absurde question de la dangerosité.
Mais ce qu'il y a je trouve de très inquiétant, c'est quand tu disais, la présidente dit « Nous, magistrats, nous sommes professionnellement responsables de l'évaluation de votre situation et de votre dangerosité ». Et ça, c'est un peu fou parce que ils sont là pour juger un fait qui s'est passé, Et là, finalement, on en parle très peu et toute l'audience a l'air de se concentrer sur ce qu'il pourrait se passer, sur la dangerosité. Et donc, on va moins juger des faits passés, ce qui est la vocation première, théoriquement, du procès pénal, mais plutôt se concentrer sur une potentielle récidive due à l'état psychique de cette personne. Et c'est fou ce glissement finalement d'audience. Quoi.
Comme si on était presque plus dans une justice prédictive finalement qu'une justice qui juge des faits là, qui.
Sans qu'on nous explique d'ailleurs trop en quoi l'envoyer 6 mois en prison va régler une histoire de dangerosité sociale. Par ailleurs, ce qui reste un raisonnement absurde.
Parce que là, la présidente a l'air de faire croire qu'en fait c'est presque une fleur de lui. Enfin, que c'est un moyen pour lui, en tout cas, de se soigner et de l'envoyer en prison.
Alors voilà, ça c'est l'autre point saillant de ce que tu racontes, c'est que finalement, elle l'envoie en prison quasi pour qu'il se soigne. Enfin, c'est ça qu'on comprend.
Mais sans aucune empathie sur son parcours, d'après ce que tu dis, jalonné d'échecs, alors qu'il a à plusieurs reprises dit qu'il avait cherché à se soigner en dehors de la prison, quoi.
Et c'est une erreur très communément répandue chez les magistrats et magistrates de penser que la prison peut être un lieu de soins.
Alors même que, d'après ce qu'il disait, il avait un rendez-vous et qu'il avait entamé un parcours de soins à l'extérieur, c'est bien ça.
Bien sûr, et après aussi la première chose qu'il dit lui-même, à savoir qu'il n'a pas pu soigner en prison à Seyss pendant son dernier séjour en prison parce qu'il se faisait racketter ses médicaments, quoi. Alors on sait bien que la prison n'est pas jamais un lieu de soins, notamment un lieu de soins psychiques et psychiatriques. Il y a quelqu'un qui en parle et qui sait de quoi il parle, notamment c'est Cyril Canetti, qui a été psychiatre à la prison de la santé pendant 25 ans et qui porte un regard plutôt sévère sur cette longue expérience professionnelle dont on va écouter là un certain nombre d'extraits.
Oui, il s'agit d'une journée d'études ou un colloque, je sais pas comment ils appellent ça, qui avait été organisée à la sortie du numéro 44 de la revue Archives de politique criminelle. Revue qui s'intitulait Santé mentale et politique criminelle.
Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les fous en prison? Parce que depuis ce matin, on parle de maladie mentale, de santé mentale, de troubles psychiques, neuropsychiques. Mais la folie, c'est la souffrance. Le fou, c'est quelqu'un, et je pense que c'est pour ça que je préfère presque le terme de fou, c'est quelqu'un qui est dans une souffrance pratiquement indescriptible. Ce sont des sentiments d'explosion psychique, de déchirement, de déchirure, de retroussement. Je vous donne ces mots-là parce qu'ils sont forts. J'avais un patient qui me disait qu'il avait l'impression, quand il avançait dans la rue, que sa peau se retroussait parce que quand il croisait des gens, ça lui arrachait la peau et qu'il était dépecé. Donc, vous voyez, la souffrance de la maladie mentale, je crois qu'elle n'apparaît plus dans tous ces mots, troubles neuropsychiques, santé mentale, etc. La maladie mentale, c'est une souffrance souvent insupportable. Et évidemment, qui concerne avant tout l'individu. Alors après, souvent, on l'éclaire sous le jour de ce que ça fait subir à l'entourage, notamment en termes de dangerosité. Mais avant tout, la maladie mentale, la folie, c'est une souffrance, et une souffrance qui est difficilement descriptible. Et les aliénistes ont mis des mots dessus, qui sont des mots très forts, pour essayer, quand on parle de déréalisation, de dépersonnalisation, de défraction psychique, ce sont des termes qui retracent un petit peu. Mais il faut être témoin de cette maladie pour comprendre la souffrance que ça veut dire. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ça la maladie mentale et que quand on parle de fous en prison, on parle de gens qui sont atteints de ces pathologies et qui sont soumis au régime carcéral. Alors, pourquoi est-ce qu'on va travailler en prison? J'ai travaillé donc un quart de siècle en milieu pénitentiaire, pratiquement. On va travailler en prison à l'origine pour donner des soins à la population incarcérée de la même nature qu'à la population à l'extérieur. C'était la politique du secteur. On a découpé la France en secteurs pour dire tout le monde a le droit à des soins psychiatriques, quel que soit son lieu de vie. En conséquence de quoi, on a décidé d'envoyer des soignants en prison avec la volonté de simplement développer des soins strictement comme on peut les donner à l'extérieur, à savoir que chacun a le droit aux mêmes qualités de soins. Donc, c'est la mission pour laquelle on est censé c'est la raison pour laquelle on est censé intervenir en prison. Et malheureusement, il y a un certain nombre de dérives auquel on assiste plus ou moins parce qu'on a des appels du pied de la pénitentiaire pour que tout ce qui est trouble, tout ce qui vient perturber le rythme de la prison soit médiquée, psychiatrisée, et donc il y a une attente de la part de l'administration pénitentiaire que le psychiatre intervienne pour maintenir l'ordre. Et puis, il y a une pression forte également pour que l'intervention des soignants en milieu pénitentiaire ait un impact sur la prévention de la récidive et sur la réinsertion. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus dans une mission de soins, mais dans une mission de contrôle et d'instrumentalisation judiciaire. Donc, on a vu arriver beaucoup de personnes qui sont fascinées, intéressées par la criminologie et qui donc vont exercer la psychiatrie ou la psychologie en milieu pénitentiaire avec l'idée de diminuer les risques de récidive et non plus d'être au service de la personne. Je me suis rendu compte qu'en développant les soins en prison, on a fini par faire appel d'air et qu'on a incité une espèce de pénalisation de la maladie mentale. On a incité énormément de magistrats à incarcérer, avoir pour seule réponse l'incarcération, et une demande de la société également à ce qu'on incarcère. Donc ça n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi vraiment une évolution des mentalités, et malheureusement, je l'ai vu souvent, hein, des magistrats qui disent, ben voilà, on va l'incarcérer, comme ça il aura accès aux soins, et en développant les SMPR, donc ces services, ces structures qui, pour certaines d'entre elles, se sont prises pour des hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire qui ont gardé des personnes qui relèveraient d'une hospitalisation, mais qui sont maintenues en prison. Donc ces SMPR ont développé la prise en charge quasi hospitalière des personnes malades mentales en prison. Et ensuite, on a développé les UHSA, qui sont des espèces d'hôpitaux-prison. On a donc des hôpitaux entourés d'une garde pénitentiaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on a réussi, dans cette évolution que je critique, à faire rentrer la psychiatrie en prison et donc à faire rentrer l'hôpital dans la prison et de l'autre côté, à faire sortir la prison pour aller entourer l'hôpital. Donc la boucle est bouclée, la justice et la pénitentiaire sont dans une... Enfin, la justice et la psychiatrie, pardon, sont dans une collaboration étroite que je crois très dangereuse. Et le réflexe de beaucoup de magistrats, c'est d'envoyer en prison, soit parce qu'ils ne perçoivent pas la maladie mentale, soit parce qu'ils pensent encore une fois que on va soigner en prison. Et j'ai vu des magistrats que j'avais eu la bonne idée d'appeler pour leur dire, écoutez, cette personne va passer en appel, je pense qu'elle a plus sa place à l'hôpital qu'en prison. Et la magistrate m'avait remercié en disant, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'échanges comme ça. Et lorsque mon patient est parti en appel, il est revenu avec 18 mois alors qu'il avait pris 12 mois en première instance. Et j'ai appelé la magistrate et elle m'a répondu, bah, écoutez, j'en ai parlé à mes assesseurs qui m'ont dit, voilà un psychiatre qui est motivé, voilà un monsieur qui a besoin de soins, on va lui donner une peine plus importante. La psychiatrie en milieu pénitentiaire s'est mise au service de la sécurité. Effectivement, lorsqu'on exerce la médecine, la psychiatrie en milieu pénitentiaire, on est facilement contaminé par les missions de surveillance, de garde, voire de punition de l'administration pénitentiaire. La prison a une vocation de réinsertion, en tout cas dans sa définition actuelle du sens de la peine, et pour beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, il n'y a pas d'accessibilité à la sanction pénale. C'est-à-dire que souvent les experts se prononcent sur la responsabilité, sur la capacité de la personne à éclairer son acte au moment où elle le commet, mais on ne parle pas de l'accessibilité à la sanction pénale. Et quand je vous parlais tout à l'heure de gens que j'ai vus faire des allers-retours en prison, des gens qui ont fait, j'ai un exemple en tête d'une personne, d'un jeune homme qui a fait 10 allers-retours entre la prison et l'hôpital en 2 ans, qui est connu de tous les tribunaux, qui est connu de son secteur, qui n'en veut plus parce qu'il pense qu'on n'y a rien à y faire, et qui a tendance à le responsabiliser, à le renvoyer en prison, et une administration pénitentiaire complètement désemparée face à des comportements complètement inadaptés, et donc une personne qui est complètement inaccessible à la sanction pénale, à tel point que les psychiatres eux-mêmes disaient, et ça ne sert à rien de le mettre dans notre service et de le mettre à l'isolement, parce que quand il sort, il est exactement pareil. En conséquence de quoi, il l'envoyait en prison, et on imagine bien que cette personne, qui n'était pas sensible aux soins psychiatriques, tellement elle était perturbée, tellement elle était malade, n'était évidemment pas sensible à la prison. Et donc quand elle sortait de prison, évidemment, elle recommençait. À tel point qu'un jour, je suis allé à un procès, à un jugement, et le procureur m'a dit, écoutez, on comprend très bien ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous conseillez? Tout le monde dit qu'il n'a pas sa place en prison, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que vous recommandez? Et je lui ai répondu que certes, on pouvait considérer que s'il n'y avait pas d'issue, on pouvait le mettre en prison, mais que dans ce cas-là, il fallait redéfinir le sens de la peine, et que si on décidait que la prison était l'endroit où on mettait les gens dont on avait souffert, il fallait changer complètement de positionnement et plus parler de réinsertion ou de prévention de la récidive, mais simplement de mise au rebut. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de fous en prison ? Ben justement, c'est pas seulement une question d'argent, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués ce matin. On a parlé de l'évolution des psychiatres, des expertises qui ont tendance de plus en plus à responsabiliser. Pourquoi ? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce de glissement dans les missions de chacun. C'est-à-dire que avec la volonté tout à fait légitime de prendre en compte la souffrance des victimes, on s'est dit que, après avoir pendant très longtemps négligé leur souffrance, pour leur donner réparation, il fallait trouver quelqu'un à condamner. Donc, quel que soit l'état mental de la personne, une condamnation permettait aux victimes de se réparer, et on le voit souvent dans la presse, au terme d'un procès, on tend le micro aux victimes en disant, voilà, il a pris 3 ans. Souvent, le terme complètement galvaudé de travail de deuil est évoqué en disant, avec 3 ans, je vais faire un peu mon travail de deuil. Il aurait pris 5 ans, ça aurait été mieux. Il aurait pris 10 ans, je serais guéri.
Donc on vient d'écouter le docteur Cyril Canetti, qui a été au SMPR de la santé, psychiatre à la prison de la santé pendant 25 ans, qui a démissionné, qui quand même avait aussi fait parler de lui il y a quelques années. Il avait été pris en otage par un détenu qui pétait les plombs littéralement en prison. Et à l'audience de la cour d'assises, il avait déclaré comprendre tout à fait que le détenu soit devenu à bout, et il n'entendait pas faire des demandes contre lui ou l'enfoncer. Enfin voilà, docteur Cyril Canetti, qui a, on vous invite hein, à aller lire quelques articles qu'il a écrit. Mais dans ces extraits, on a quand même les grands thèmes de ce qu'il dit souvent.
Et moi, ce qui me frappe particulièrement, là, en entendant Monsieur Canetti parler, c'est à quel point ça fait écho aux deux chroniques que tu viens de nous relater, Marie, quoi. Où on voit différents points des problèmes liés aux problèmes psychiques traités par la justice, qui sont quand même très, très saillants, quoi.
Et de manière qu'en fait la justice là en audience se préoccupe beaucoup de la récidive et moins des faits qui se sont passés que des faits qui risqueraient éventuellement d'être commis dans le futur, la psychiatrie en prison a fait sien ce combat et du coup se préoccupe aussi de régler la récidive plus que de soigner les gens. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'il dit à un moment quand il veut dire que les nouveaux psychiatres qui interviennent en prison sont férus de criminologie. C'est un peu ça qu'il dénonce.
Oui, et plus cette contagion finalement aux objectifs de l'administration pénitentiaire. D'un côté, on a des psychiatres criminologues qui vont se pencher sur la prévention de la récidive.
Et de la dangerosité, d'une prétendue dangerosité.
Et d'un autre côté, des psychiatres qui, agissant en prison, consciemment ou non, vont se conformer aux injonctions et aux objectifs de l'administration pénitentiaire, la docilité pour le bon ordre de l'établissement, quoi.
Le maintien de l'ordre carcéral.
Oui, voilà, c'est ça. Donc... on est très loin du soin, dans les deux cas.
On est très loin du soin, et pourtant, ce qui ressort et ce qui est hyper intéressant, notamment dans son anecdote là, du jeune homme qui prend plus parce qu'il a alerté, et ce qui ressort aussi dans ta chronique, Marie, c'est que les magistrats envoient en prison pour soigner, quoi. C'est quand même assez intéressant de le souligner.
Et d'où l'hypothèse un peu qui soumet, y a-t-il plus de personnes malades en prison depuis que les psychiatres sont intervenus en prison, alors même que la psychiatrie en prison, à la base, ça part d'une volonté d'égalité d'accès aux soins. Et donc un dévoiement comme ça sur une trentaine d'années qui est assez spectaculaire.
Et puis, oui, parce qu'il le rappelle, et ça c'est intéressant de ne pas le perdre de vue, parce que ça ressort pas du tout, par exemple, dans ce que toi tu observes, j'ai l'impression, dans les comparutions immédiates, c'est aussi la souffrance. C'est qu'on parle de troubles psy, mais que derrière, lui, il le dit bien, que c'est des gens qui sont en souffrance, et que du coup, cette souffrance, elle est pas du tout...
Oui, et elle est complètement invisibilisée. Oui. Elle est complètement absente des rapports d'expertise. Elle est complètement absente de l'audience. Cette souffrance là, alors qu'elle est elle est fondamentale pour la personne qui l'a subie, et elle permet vraisemblablement d'éclairer en tout cas la situation d'une personne, mais ça n'existe pas. la maladie, le malade est quelqu'un de dangereux avant d'être quelqu'un qui souffre.